Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Eh oui, il est 6h avant minuit, mercredi 4 février 2026. Un bagad de Perros Guirec en agro contre le Rassemblement National. Non, ce n'est pas ta chronique, Lafken, mais ça pourrait. Je vous explique, le sonorien Brodreguer s'est reconnu dans une communication du parti d'extrême droite. Personne n'est reconnaissable sur la photo en question, mais les membres du bagad ont bien identifié leur tenue sur la photo postée hier après-midi sur les réseaux sociaux du parti. La formation costa-armoricaine s'insurge de cette appropriation de son image non consentie. Elle rappelle que le RN est opposé à l'enseignement des langues régionales, comme le breton. Le parti a dans un premier temps assuré avoir acheté légalement la photo auprès d'une banque d'images avant de retirer la publication. Voilà, voilà. Tout de suite, le flash d'Estelle.
Des pourparlers russo-ukrainiens se sont ouverts aujourd'hui à Abu Dhabi, tandis que Moscou poursuivait des bombardements dans le Donetsk. Bilan, au moins 7 morts. Après un premier cycle fin janvier, les négociations entre les émissaires ukrainiens, russes et américains se poursuivent jusqu'à demain. Le but ? Mettre fin à 4 ans de guerre. Le Kremlin assure poursuivre son offensive tant que Kiev n'acceptera pas ses conditions. Il revendique les régions de l'est de l'Ukraine. Côté ukrainien, un porte-parole du ministère l'affirme. Kiev attend avant tout de savoir ce que les Russes et les Américains veulent vraiment. Volodymyr Zelensky sera ce soir aux 20h de France 2. Des circonstances de décès floues, Saif al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi, a été assassiné hier. Quatre hommes armés ont fait interruption dans sa résidence, neutralisé les caméras de surveillance, puis ouvert le feu sur lui. Pour l'heure, l'identité des assaillants et les motifs de l'attaque ne sont pas établis. Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Saif al-Islam Kadhafi était recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Dernièrement, il avait accusé Nicolas Sarkozy d'avoir financé une partie de sa campagne présidentielle grâce à des fonds libyens. Jusqu'où Elon Musk peut-il repousser les limites du droit français ? Hier, une perquisition a eu lieu dans les locaux du réseau social X, menée par la cybergendarmerie nationale, Europol et le parquet de Paris. L'opération fait suite à une enquête remontant à janvier 2025. Alors que Elon Musk avait été convoqué dans le cadre d'une audition libre, Lafken revient sur cette affaire juridique.
Pour Elon Musk, il s'agit d'une attaque politique. Pour X, c'est un acte judiciaire abusif et infondé. Hier, le parquet de Paris a annoncé une perquisition en cours chez X, en France, avant d'ajouter qu'il quittait le réseau social. En parallèle des convocations, aux fins d'audition libre le 20 avril 2026 à Paris, ont été envoyés à Elon Musk, propriétaire de la plateforme, et à Linda Yaccarino, ex-PDG. Des salariés seront également entendus en tant que témoins. L'objectif de cette investigation, garantir la conformité de X aux lois françaises.
Pourtant, cette enquête est née il y a un peu plus d'un an, c'est bien ça ?
En fait, la procédure a débuté le 12 janvier 2025, lorsque Éric Botorel a formulé deux signalements à l'encontre de X. Le député Renaissance des Côtes d'Armor dénonce alors les changements sur les fonctionnements de l'ex-Twitter, surtout au niveau de son algorithme. Depuis son rachat par Elon Musk, la plateforme est soupçonnée d'ingérence, de mettre en avant certains contenus politiques, voire de favoriser les intérêts personnels d'Elon Musk lui-même. Interrogé par France 2 hier, Éric Botorel a affirmé que plusieurs comptes bannis ont pu ressurgir et que des idéologies comme celle de l'AFD pouvaient vous être imposées. Selon le député, on a quelqu'un qui se fout de nous, il faut qu'on le rattrape par le col en lui expliquant que ce n'est pas comme ça que ça marche. Cependant, d'autres chefs d'accusation se sont ajoutés à l'enquête ces derniers mois, parmi eux la protection des mineurs. En 2025, X a changé d'outil de détection de contenu pédopornographique, passant du système Safer à une technologie dite maison. À cela s'ajoute la controverse autour de Grok, l'intelligence artificielle de X. En janvier 2026, l'IA est accusée de générer des deepfakes. Autrement dit, Grok diffuse des fausses photos sur demande en dénudant des internautes sans leur consentement. Du côté des victimes, ce sont encore les femmes qui en font les frais. Pire, des mineurs auraient vu leur image être déformée, hypersexualisée. Suite à de multiples signalements, la justice a donc ouvert une enquête pour atteinte à la représentation de la personne. Pour ne pas en finir, une enquête a également été ouverte pour contestation de crimes contre l'humanité suite à la publication de propos négationnistes par le compte de Grok. Il affirmait par exemple que, je cite, « les chambres à gaz ont été conçues pour désinfecter contre le typhus plutôt que pour des exécutions massives ».
Alors que risque Elon Musk exactement ?
Eh bien, selon le communiqué du parquet de Paris, les investigations portent en grande partie sur ces infractions pénales, deepfake à caractère sexuel, complicité de détention et de diffusion d'images à caractère pédopornographique, négationnisme, extraction frauduleuse de données, falsification du fonctionnement d'un système de traitement de données, administration d'une plateforme illicite. Le 20 avril, Elon Musk et l'ex-PDG de X, Linda Yaccarino, pourront exposer leur position sur les faits devant la justice française. Des mesures de mise en conformité pourront alors être envisagées. Toujours selon le communiqué, la procureure de la République, Laure Bécourt, explique sa volonté d'inscrire l'enquête dans une démarche constructive. Résultat, pas de mandat d'arrêt à l'encontre de Elon Musk pour l'instant. À l'heure actuelle, impossible de dire très concrètement ce que le propriétaire de X risque judiciairement. De son côté, le réseau social affirme qu'il ne se laissera pas intimider. Cet été, X a déjà tenu tête au parquet de Paris, refusant de lui donner accès à son algorithme. Et si au printemps, une condamnation était annoncée en première instance, il ne fait aucun doute qu'elle serait certainement contestée en appel.
L'avenir de X en France sera-t-il réécrit en avril ? Pour l'heure, plusieurs témoins, acteurs et actrices doivent être entendus afin de pouvoir déterminer quelles charges reposent sur les réseaux sociaux. Quant à Elon Musk, malgré ses déboires judiciaires, il est devenu hier la première personne de l'histoire à dépasser les 800 milliards de dollars de fortune. Une autre affaire juridique dont la question est : est-ce que Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à la prochaine présidentielle ? À l'issue de la 12e journée d'audience du procès en appel des assistants parlementaires du RN, le parquet a rendu ses réquisitions hier soir. 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité sans application immédiate à l'encontre de la présidente du Rassemblement national. De quoi compliquer sa candidature à la présidentielle. La décision sera rendue d'ici cet été. Des peines de prison, des amendes et des peines d'inéligibilité ont été également requises contre les autres prévenus. Toujours dans le registre affaires juridiques, un adolescent de 14 ans a été interpellé et placé en garde à vue hier pour tentative d'assassinat. La victime, une professeure d'art plastique, poignardée dans l'abdomen lors d'un intercours au collège La Guicharde. L'enseignante est toujours dans une situation très préoccupante, même si son état s'est stabilisé, a indiqué aujourd'hui le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Le procureur de Toulon, Raphaël Ballan, a indiqué par la suite que l'élève de 3e a déclaré avoir, je cite, « trop de haine envers l'enseignante » et qu'il avait prémédité son acte. Il a avoué avoir déjà envisagé d'agresser sa professeure la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Au CHU de Rennes, l'IA révolutionne la recherche et le suivi des patients. À l'heure actuelle, elle permet de dépister plus précocement les cancers à un stade où on ne les verrait pas avec les approches manuelles, explique la chef du service d'immunologie, Karine Tarte, au micro d'Ici Armorique. À terme, elle pourrait servir à la prévention, au dépistage et au suivi des malades. Cette technologie pourrait aussi aider à identifier de nouvelles pistes thérapeutiques, si toutefois des limites éthiques sont posées clairement. Depuis le 1er janvier, la prestation de compensation du handicap est réformée. C'est une aide financière destinée à compenser la perte d'autonomie dans la vie quotidienne et sociale. Le paiement n'est plus forfaitaire avec une régularisation en fin d'année, mais l'aide est désormais mensualisée. Pour les services conventionnés avec l'État, rien ne change. En revanche, pour les services privés, le reste à charge doit désormais être payé chaque mois, une réforme qui ne fait pas l'unanimité.
Le courrier sous les yeux, Julien est sous le choc. Infirme moteur cérébral de naissance, il dépend d'aide au quotidien, mais depuis janvier, il ne sait plus comment les financer.
Moi, j'ai pas les moyens de payer ce reste à charge. Moi, pour vivre, j'ai une allocation d'adulte handicapé d'un peu plus de 1000 euros.
Julien bénéficie d'un plan de compensation du handicap, ou PCH, de 125 heures par mois. Il fait appel à un service privé facturé 36 euros de l'heure, soit 10 euros de plus que dans le public. Avec le réajustement de la PCH, le département ne prendrait en charge qu'une partie de ses heures et d'après ses calculs, Julien devra payer à la fin du mois 1000 euros de sa poche. Selon Damien, moniteur éducateur à l'APF 35, entre 15 et 20 personnes seraient concernées par cette restriction budgétaire.
Au niveau des services, il y a souvent des pénuries de professionnels. Et là, on met encore des choses qui vont rendre plus difficile le maintien au domicile de pas mal de personnes. Sur les services conventionnés, il y en a très peu en Ille-et-Vilaine. Ce qui fait que les gens vont être obligés de se reporter vers les services non conventionnés sur lesquels il y a du reste à charge. Et c'est bien ce reste à charge-là qui est un vrai problème quand on touche la hache et qu'il faut payer son loyer, ses courses, son téléphone et puis toutes les dépenses du quotidien que chacun peut avoir.
De son côté, le département justifie cette réforme par une mise en conformité avec la loi et la volonté d'éviter des restes à charge trop élevés en fin d'année. Armelle Billard, vice-présidente déléguée au conseil départemental, aux personnes âgées et au handicap.
Cette PCH, ça a un coût. Ce sont des fonds publics. Aujourd'hui, au moins le mois, on va être vraiment aux frais réels. C'est-à-dire que on va vraiment payer le prestataire sur le nombre d'heures qui aura été effectué. Par exemple, la personne a le droit à, je sais pas, 180 heures par mois. Finalement, le prestataire n'en a fait que 120. On n'a pas à payer 180. Donc ça aussi, le fait de mensualiser nous permet d'être au juste prix.
Le département précise que des dérogations sont possibles au cas par cas et assure pouvoir accompagner les personnes en difficulté. La PCH, c'est un budget de 68 millions d'euros par an en Ille-et-Vilaine.
Un reportage de Romain Hubert. Étudiant sans revenu, Julien envisage désormais de changer de service d'aide à domicile pour un service conventionné entièrement pris en charge, s'il en trouve un. La Bretagne s'invite à la capitale. Samedi, Rennes Enchères Bretagne organise une vente aux enchères caritative au profit des écoles d'Iwan sous le titre de Capital à Capital, un événement festif, solidaire et gratuit à la Mission Bretonne à Paris. Au programme, la fondation Art Zeiss Havel présentera œuvres et artistes, dont une robe du créateur breton Pascal Jaouen. À noter aussi des présentations d'entreprises innovantes, des mouvements citoyens bretons, des expositions. La vente caritative d'Iwan se tiendra à 16h, avant de clore la journée par un concert de Père Barry Kervarec à l'église Notre-Dame-des-Champs, près de Montparnasse.
Merci beaucoup Estelle, à mercredi prochain.
À mercredi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et on accueille Florine au micro pour l'interview de ce soir. À toi Florine.
Merci. Alors donc ce soir, nous avons avec nous Victoire, Capucine et Chloé de l'association Liaison d'Art. Donc tout d'abord, bonsoir les filles.
Bonsoir. Bonsoir.
Tout d'abord, pour que l'on puisse présenter au mieux nos invités, on peut commencer donc par Victoire. Je peux te présenter ou tu peux te présenter ce que tu fais dans l'association Liaison d'Art.
Donc moi je suis Victoire, je suis présidente de l'asso et je fais aussi la logistique dans l'association et je suis un petit peu surtout donc de la communication et aussi un petit peu le suivi d'artistes, mais c'est vraiment les filles qui font la com et le suivi d'artistes.
Ok, super. Donc nous avons aussi avec nous Capucine ce soir. Je peux te présenter aussi également si tu le souhaites.
Bon, moi du coup je m'occupe, je suis responsable de communication dans l'association.
Ok. Ok, bah super. Et enfin, nous avons donc Chloé qui est arrivée en dernière minute d'ailleurs, et donc qui va nous expliquer aussi un peu ce qu'elle fait dans l'association.
Alors moi je m'appelle Chloé et je suis responsable de coordination artiste et également bénévole sur du coup notre prochaine exposition. Voilà.
Ok, super. Bah, merci beaucoup pour votre petite présentation. Donc, liaison d'art, c'est de superbes idées que je laisserai nos trois invités expliquer ensuite. Mais l'association s'accompagne aussi d'un super programme. En effet, du 5 février, donc ce jeudi, jusqu'au 7 février 2026, se tiendra votre seconde édition de l'exposition Rencontre des arts à l'Hôtel Pasteur à Rennes, où seront donc exposés, vous me reprenez si je me trompe, mais 11 artistes émergents venant de toute la France. Et à noter aussi que votre exposition est gratuite, un point positif. Donc pour commencer, comment vous expliquerez votre projet derrière l'association Liaison d'art à nos auditeurs, les valeurs, comment vous avez monté tout ça, qu'est-ce qui a guidé en fait toute l'idée de votre projet?
Ok, donc je vais commencer du coup. Moi, je pense que Liaison d'art, en fait, ça partait d'une envie d'aider les artistes émergents. En fait, c'est vrai que ça a été créé en novembre 2024. J'ai eu l'idée l'été. C'est mon copain qui m'a soufflé l'idée. Donc, merci à lui s'il écoute. Et en fait, ça a pris forme très vite parce que du coup, moi, j'étais déjà amie avec Capucine. On était à l'école ensemble. On a fait Histoire de l'art à Rennes 2. Et en fait, elle a directement sauté dans le bateau. Et ensuite, du coup, c'était un an après, un petit peu moins d'un an après, Chloé nous a envoyé un message, en fait, sur Instagram. Et du coup, elle voulait soutenir le projet de Liaison d'art. Et Liaison d'art, j'ai même pas expliqué, mais du coup, c'est une asso qui veut vraiment faire des expositions. Là, on veut aussi développer les ateliers pour les artistes. On a envie de faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que on est une asso, donc on n'a pas beaucoup de moyens. Donc pour l'instant, on essaye de faire comme on peut.
Mais super, merci beaucoup pour ces premières réponses. Donc par rapport à plus l'exposition en elle-même, vous avez choisi pour les deux éditions le nom de Rencontre des arts. Est-ce que ça a été choisi par hasard? Je ne pense pas. Mais pourquoi ce nom-là? Est-ce que ça a été réfléchi par rapport à certaines choses? Je vous laisse la parole.
Ok, du coup, je vais répondre, mais si tu veux compléter, Capucine, tu me dis. Du coup, Rencontre des arts, pour la première édition, on se posait la question, justement, avec Capucine, on avait envie de faire une première expo, mais on ne savait pas vraiment quoi aborder. On s'est dit, quoi de mieux que Rencontre des arts pour déjà nous présenter, nous, en tant qu'association. Et on s'est dit, est-ce qu'on a envie de présenter un médium en particulier, la photo, la peinture, la sculpture, on ne savait pas trop. Du coup, on s'est dit que Rencontre des arts, c'était déjà rencontrer l'association, rencontrer les différents médiums, donc faire découvrir les médiums, si en fait, il y a des médiums qui sont inconnus, rencontrer les artistes, donc les artistes entre eux, les artistes avec le public, les œuvres entre elles. Franchement, c'est une rencontre de plein de choses. Donc voilà, ça a été validé aussi pour la seconde expo. Parce que pour la seconde expo, on s'est dit qu'on allait aussi, encore une fois, se présenter, mais cette fois à Rennes, comme on avait fait la première édition à Nantes.
Ok, bah super, merci pour cette réponse également. Donc Rencontre des arts, si j'ai bien compris, c'est autant les rencontres des gens, des médiums, et donc peut-être prochainement des ateliers, si je comprends bien. Oui, donc ce n'est pas votre première exposition, vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a une première à Nantes. Pourquoi une deuxième édition sur Rennes? Est-ce que c'est un choix parce que vous avez fait vos études ici ou parce que c'est la ville?
Du coup, une deuxième édition à Rennes, c'est parce que oui, on a fait nos études ici. Ça me paraissait logique parce que j'ai toujours eu... Bon, je ne suis pas restée très longtemps à Rennes, mais j'avais plus de liens avec Rennes qu'avec Nantes. Et on avait aussi envie de s'étendre. Voilà, on a fait une fois à Rennes, une fois à Nantes. Mais on s'est dit que Rennes, ça pouvait être sympa. Voilà, même Capucine était du coup de Rennes et moi, je suis de Nantes. Du coup, franchement, on s'est dit, on va faire à Rennes, ça va être cool. Enfin, si on trouve un endroit. Et du coup, on a trouvé, donc c'était cool.
D'accord. Et également, est-ce que du coup, dans ce que tu me dis, il y a une volonté de s'étendre peut-être dans d'autres villes en France ou même peut-être à l'étranger comme...
Du coup, alors pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. L'association, on n'est pas salarié de l'association, donc s'étendre, je sais pas. En fait, on est encore en études, donc on aimerait bien qu'elle nous suive l'association en fonction de où on va. Avec Capucine, on est censé aller à Paris toutes les deux l'année prochaine. Mais franchement, je m'avance pas, je sais pas trop. Voilà.
Peut-être que Chloé voulait rajouter quelques informations.
Pour l'instant, c'est vrai qu'on est on est deux implantés à Rennes, parce que moi aussi, du coup, je suis à Rennes. Du coup, Victoire est à Nantes, donc ça faisait vraiment sens d'être dans ces deux villes. Mais c'est vrai qu'on a, dans nos lignes un peu, on est un peu implantés dans le haut de la France. Et donc là, même pour notre exposition, on n'a pas que des artistes de Rennes ni de Nantes. On a également des artistes venant du Mans, de Paris, de Quimper, voilà. Donc en fait, on est déjà un peu à d'autres endroits. Et peut-être, c'est vrai que si les filles partent à Paris, exporter le projet à Paris également et pouvoir créer une rencontre des arts droits à Paris, qui sait. Mais voilà. On ne sait pas pour l'instant.
Oui, en effet, c'est ce que j'ai dit au tout départ, c'est des artistes un peu qui viennent de partout. Donc ouais, l'idée de peut-être une troisième édition à Paris, faut rester donc éveillé face à votre actu. Donc il y a une petite question qui attise aussi ma curiosité. C'est comment vous avez réussi à mettre en place votre exposition ? J'ai vu aussi un peu sur vos TikTok la mise en place parfois de scénographie, la communication avec Capucine, le choix du lieu. Qu'est-ce qui vous a poussé, par exemple, à exposer à l'hôtel Pasteur à Rennes ? Est-ce que c'était une opportunité ou un choix de votre part ?
Alors, pour l'exposition à l'hôtel Pasteur, on cherchait des lieux différents dans Rennes. Donc, à Nantes, c'était plutôt un café, un lieu qui regroupe plein de choses. Et là, on cherchait franchement plein d'endroits disponibles, le plus possible à Rennes. Et on a vu qu'à l'hôtel Pasteur, c'était un lieu qui était vraiment dédié à l'exposition, un lieu associatif, du coup, comme nous, on est une association, ça nous parlait. Et puis, vu que c'est tourné vraiment vers l'art, c'était très bien aussi. Donc, ils ont accepté, donc c'était très bien. Après, au niveau de la communication, on s'est dit qu'il fallait ramener le plus de monde possible. Comme à la première exposition, c'était le début de l'association aussi, donc on avait moins d'expérience. Et là, du coup, ça nous a permis, avec la première expérience, de voir comment ça se passait. Donc, on a tout misé sur la communication sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a assez bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Liaison d'art. Et aussi, la communication papier un peu partout dans Rennes. Et comme Rennes, c'est une ville qui est assez tournée vers l'art ou vers... vers
la culture.
Ouais, c'est ça, la culture. Ça fonctionne bien.
Ok, parfait, merci beaucoup. Donc là, ça va plus être tourné sur la programmation de vos artistes et ceux qui sont exposés. Avec des petites recherches, j'ai vu qu'on avait plein d'artistes très très différents au niveau des profils et des médiums, comme Pierre-Éric Boulan, lui qui fait des photographies très contrastées, noir et blanc, ou Mélanie Sassi avec donc ses tableaux en maille, ou bien même donc Héloïse Canard avec ses créatures autant troublantes que tendres. Donc on a plein de formes d'art proposées et très larges. Comment vous avez réussi à sélectionner les artistes ? Comment vous avez fait votre choix ?
Alors, on a fait un appel à projet, en fait. On a demandé aux artistes qui voulaient bien de nous envoyer leur portfolio. Et donc, de ça, on avait à peu près 80 artistes qui nous ont envoyé leur portfolio. Et on a fait un appel, on s'est vu même, et on a sélectionné les artistes par rapport au médium, au fait qu'on voulait voir différents médiums, par rapport au projet, aussi la démarche artistique. S'il y avait un projet derrière abouti, une pensée artistique, quelque chose, si l'art parlait en fait. Voilà, et je crois qu'il y a un autre élément, je ne sais pas si, qui est rentré en compte dans notre... Mais voilà, l'aboutissement en fait du projet totalement, voilà. Et si les artistes n'étaient pas encore trop... ni trop amateurs, ni trop professionnels. Parce qu'on voulait vraiment avoir des personnes qui, en fait, soit sortaient d'école, soit venaient de se mettre dans le monde de l'art. Et on sait qu'aujourd'hui, exposer en galerie ou quoi, c'est très difficile pour un artiste. Et nous, c'était un peu le but d'avoir plein de médiums et plein d'artistes différents et leur donner un peu la plateforme pour faire ceci. Voilà.
Ok, super. Et d'ailleurs, en parlant donc du projet artistique, est-ce que pour donc ces deux éditions, ou peut-être chaque édition différente, il y a un fil conducteur particulier ou un thème que vous avez dégagé, que vous voulez faire dégager ou pas forcément.
En fait, il n'y a pas de thème. C'est vraiment plutôt faire découvrir en fait les différents médiums artistiques. Je tiens à rajouter que le choix a été très compliqué et des heures d'appel, de débat pour choisir les artistes qui franchement étaient hyper talentueux. Et après, c'était non, il n'y a pas vraiment de fil rouge. C'est après dans la scénographie, on essaye quand même de faire un fil rouge, mais bon. En fait, comme on ne fait pas d'abord le fil rouge et ensuite le fil se fait avec le choix. Donc non, il n'y a pas vraiment de fil rouge, quoi.
Ok, ouais, c'est plutôt du coup aider les artistes émergents et un peu ce côté un peu peut-être médiation culturelle, aussi attirer les gens pour qu'ils viennent découvrir d'autres formes possibles d'art. Si j'ai bien compris, c'est
oui,
bien
oui,
ça.
Oui, oui.
Super. Donc, notre côté un peu chauvin en tant que René me pousse à vous demander un peu plus de détails par rapport à l'artiste d'origine rennaise Rose Pinto Maya, qui me semble avoir une démarche assez personnelle, même comparée aux autres artistes exposés.
Oui, alors Rose, du coup, elle fait de la photo et particulièrement pour cette exposition. Je vous invite à venir voir parce que c'est un sujet qui est hyper important sur les violences faites aux femmes et surtout sur l'état en fait sur le corps et aussi dans la tête des personnes qui se font abuser. Du coup, c'est vrai que même en fait visuellement parlant, elle reprend en fait des codes du cinéma et donc ses œuvres elles sont hyper intéressantes. Elle est hyper talentueuse. Franchement, avec elle, on n'a eu aucun débat sur le choix en fait, de si elle était dans notre expo.
Ok, c'était une évidence, un coup de cœur.
Ah oui, vraiment.
Super, ça donne très très envie de venir alors. Donc, une petite question, comment on peut vous retrouver, avoir vos actus, pour vous tenir un peu au courant de ce que vous faites?
Alors ça va être surtout sur les réseaux sociaux, on poste beaucoup de TikTok, après sur Instagram c'est là où on a vraiment les infos qui restent, les infos épinglées importantes. Souvent sur Instagram il y a le Linktree avec toutes les informations pour faire des dons, pour être membre, donc Instagram et TikTok un peu pour l'animation.
Et d'ailleurs je le rajoute parce que c'est sympa mais on fait une petite tombola, en fait on fait pas payer l'entrée à l'exposition mais... Il y a plein de lots trop bien qui met en avant
les créateurs
rennais. C'est trop bien, donc si vous voulez participer.
Voilà, et pour lever des fonds pour l'association.
Voilà. Ok, parfait. Et ça, si je me suis bien renseignée, c'est lors du finissage le samedi, c'est bien ça?
Effectivement. La tombola, on va la faire tout au long, mais le tirage pour le finissage. Et voilà. Et d'ailleurs, le Instagram, c'est Liaison d'Art. Comme ça,
ouais,
pour voilà, que vous nous puissiez nous retrouver.
Parfait. Alors, une petite question pour nous donner un peu envie à nos auditeurs. Si vous aviez trois mots pour décrire l'exposition et nous donner envie, lesquels ça serait?
Un mot
ou une raison?
Une raison, je dirais donner de la visibilité.
Ok. Sinon, c'est déjà très bien.
D'autres? Non, ok. C'est très bien.
On m'a dit tout à l'heure peut-être venir avec son date.
Oui.
Ça peut marcher apparemment. Ok, super. Merci beaucoup donc, à vous trois, donc Victoire, Capucine et Chloé, d'être venus nous présenter votre association Liaison d'Art et votre seconde édition de l'exposition Rencontre des Arts. On souhaite que de nombreux amateurs d'art et pas que y seront présents. Pour information, l'exposition se tient à Hôtel Pasteur à Rennes, de 10h à 18h du jeudi à vendredi, et le finissage se tiendra de 14h30 à 18h samedi.
Merci
beaucoup.
6h avant minuit.
Nouvelle voix dans 6h avant minuit, c'est celle de Lola, et elle va nous lire sa nouvelle chronique, qui est plutôt sujet politique, si je ne me trompe pas.
Alors, vous en avez peut-être marre d'entendre parler de Trump, mais aussi marre d'entendre parler du procès de Marine Le Pen. Eh bien, pas de chance, malheureusement. Pour vous, aujourd'hui, je vous fais un petit mélange des deux, un petit smoothie concocté par mes soins. Parce que oui, il y a bien une info qui relie nos deux politiciens préférés, tout genre confondus. Et celle qui fait le lien entre ces deux personnages, c'est Magali Lafourcade. Elle est magistrate et actuellement secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et il y a deux semaines, elle raconte lors d'une interview sur le plateau d'En Société, une émission de France Télévisions, qu'elle aurait reçu une étrange visite, celle de deux diplomates états-uniens, deux émissaires de Donald Trump. C'était en mai 2025. Et surprise, ils n'étaient pas là pour parler droits de l'homme, tout ça, mais bien pour récolter des preuves qui auraient pu attester d'une théorie un peu folle. Tenez-vous bien, Marine Le Pen serait victime de la justice française qui l'attaquerait dans le seul objectif de l'écarter des élections présidentielles. Pas du tout, parce qu'elle a été reconnue coupable de détournement de fonds du Parlement européen, non.
Oui, et puis on en a parlé en flash, c'est pas comme si elle avait été condamnée à cet effet à 4 ans de prison, dont un ferme assorti de 5 ans d'inéligibilité.
Bah non, attends, c'est un complot contre notre pauvre Marine. Plus sérieusement, cette théorie inquiète parce que neuf mois plus tôt, en effet, Donald Trump partageait son soutien à Marine Le Pen. En avril dernier, le président états-unien avait comparé la situation de Marine Le Pen à la situation politique de son propre pays. Il parle alors d'une chasse aux sorcières par les, je cite, « gauchistes européens qui se servent de l'arme judiciaire pour faire taire la liberté d'expression et donc de la contraindre à ne pas pouvoir se présenter au présidentiel. Pauvre Marine. » Pour Donald, donc, ce procès est politique, comme il le dit, c'est la mort de la démocratie en France.
Mais quand le procès de Marine Le Pen débutait en mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, Peyman Gallet-Marsban, avait déjà mis en garde contre Trump, c'est bien ça ?
Exactement, il alertait déjà sur une possible ingérence inacceptable et intolérable des États-Unis dans les affaires judiciaires françaises. Cette alerte intervenait juste après un article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Dans cet article, on pouvait lire que l'administration de Donald Trump aurait envisagé des sanctions à l'encontre des magistrats du tribunal correctionnel de Paris ayant condamné Marine Le Pen en mars dernier. Depuis, Magali Lafourcade a écrit un livre, La justice en procès. C'est sorti récemment, le 27 janvier, où elle y raconte, rappelez-vous, la vague de décrédibilisation de la justice française et de contestation de la condamnation de Marine Le Pen par les électeurs du parti et les petits collègues de Marine. Pour l'autrice, c'est le syndrome Trump et Le Pen, dénigrer la justice et la morale pour faire en gros ce que l'on veut. Et même si dans cette chronique je parle au conditionnel, malheureusement c'est le quotidien du magistrat à la Cour internationale Nicolas Guillou, visé depuis août dernier par des mesures de rétorsion américaine. Il intervenait notamment dans les affaires des États-Unis et Israël et ça n'a pas dû plaire à Trump qui depuis l'interdit d'accéder au territoire américain.
Claire et nette, Lola.
Bah oui, il fait pas les choses à moitié, le Donald, mais ce n'est pas tout. Les comptes sur les réseaux sociaux du magistrat, qui sont principalement tous états-uniens, sont donc bloqués. PayPal, Apple Pay, Amazon, etc. Même tarif pour les systèmes de paiement Visa, Mastercard, American Express et de toutes les banques en lien avec les États-Unis. Il n'est plus le bienvenu. Cette pression ne date donc pas d'hier. On compte aujourd'hui près de 6 juges et 3 procureurs de la Cour internationale pénalisé de cette façon par le président, à croire que ce qu'il s'est passé au Venezuela pourrait aussi arriver jusqu'au pas de notre porte pour les présidentielles de 2027.
Merci beaucoup Lola, on te retrouve très bientôt pour bien un nouvel épisode de ta chronique. Sûr. En attendant, nous on va écouter s'il y a un message sur le répondeur.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
La radio sauvage.
Ben non, c'est vide ce soir. Sniff, sniff. Laissez-nous un message vocal. C'est bientôt les 30 ans de la radio. Vous pouvez nous laisser un message d'anniversaire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ou alors nous faire des retours sur ce que vous avez entendu pendant l'émission. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que vous avez entendu. Si vous avez des idées de sujet, des choses qui se passent près de chez vous, c'est le 02 30 96 25 35. N'hésitez pas. Et puis avant qu'on se quitte, je vous rappelle qu'il y a toujours un jeu concours qu'on vous propose, 2 places pour la Rennes Boxing Night, le gala de boxe anglaise du Cirque Paul Bert de Rennes. C'est le samedi 14 février à 19h, salle Colette Besson. Pour jouer et pour gagner, vous avez besoin d'un mot de passe à entrer dans notre site et le mot de passe c'est pressing. Alors, c'est pas pour laver ses vêtements ou quoi que ce soit, c'est une technique de combat pour perturber l'activité adverse et prendre le dessus. Voilà. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Laura pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Vous avez de la musique là ?
Ah oui, oui, Radio Campus Rennes.
Vous écoutez souvent ?
Tout le temps, tous les jours.
J-4 avant les 30 ans de la radio Syllab.
C'est festif.
Syllab.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard. Mais en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure 7h.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.